Chapitre 12. Robert lui montra du geste les épées et les sabres placés sur la table. Il les examina, prit un sabre. Il avait l'habitude de cette arme qu'il s'exerçait souvent à manier à bord du Caïman. Plus d'une fois, devant son beau-frère, il avait fait un saut avec Morgan. Robert, au contraire, avait quelques pratiques de l'épée et n'avait jamais touché un sabre. Peu lui importait. Il voulait que ce duel fût le jugement de Dieu. Diego ôta son habit et choisit sa place avec soin. Il tournait le dos à la porte d'entrée à laquelle son adversaire faisait face. Robert dit à John de retirer la clé et de se placer avec Paddy contre le mur, près de la fenêtre. Il leur fit jurer à tous les deux de ne pas bouger quoi qu'il arrivât. Puis il se déshabilla et se mit en garde. Replié sur lui-même, le bras à demi tendu et le sabre haut, Diego se tenait sur la défensive. Il ne voulait rien livrer au hasard. Son plan était d'attirer Robert en pleine lumière, sous la lampe du plafond, pendant que lui resterait dans la pénombre. Mais Robert comprit. Il feignit de vouloir lui porter un coup à la tête, et pendant la parade, il sauta brusquement de côté. Les deux adversaires se trouvèrent alors hors du cercle lumineux. Le père de Georges tournait le dos à la fenêtre et Diego avait derrière lui l'armure du plongeur. La partie devenait plus égale. Robert attaqua franchement. Il ne se servit que de la pointe sans se préoccuper beaucoup de parer. Au bout de 2 minutes, 2 coups de tranchant lui avaient entamé la joue et l'épaule. Il perdait beaucoup de sang et il sentait que ses forces allait diminuer promptement. Il voulut en finir. Oubliant toute précaution et toute méthode, frappant de la lame et de la pointe, il se jeta sur son ennemi. Peu lui importait de mourir pourvu qu'il tuât l'assassin de Georges. Cette attaque furieuse ne fit rien perdre de son sang-froid à Diego. Il parait en rompant et bientôt il se trouva rodé au mur. Plusieurs fois déjà, Robert avait cru l'avoir touché. Il vit des filets de sang couler sur sa figure et sur sa poitrine. L'assassin était blessé. Alors la rage s'empara du misérable, et négligeant à son tour de se défendre, il se rua sur Robert comme sur une bête féroce. Il y eut une demi-minute de lutte horrible. Diego avait saisi son sabre à 2 mains et cherchait à fendre la bête de son adversaire. Mais les deux combattants se touchaient presque et les coups portaient trop loin. La lame de Robert était engagée entre le mur et le bras gauche de son ennemi. Elle ne pouvait plus lui servir. Il sentait le cœur de Diego contre sa poitrine et son souffle contre sa joue. Le sang qui coulait de leurs blessures se mêlait. Oh, cela dura bien 20 secondes. Puis Robert plia sur ses jarrets, fit un bond en arrière et lança un coup de poing droit de toute la force qui lui restait. La pointe de son sabre se brisa contre un corps dur. En même temps, il sentit à la tête un choc épouvantable. Il ferma les yeux et tomba en avant. Il avait été atteint au côté gauche du crâne par le retour d'un moulin terrible. Quant à Diego, il s'était affaissé comme une masse inerte. Il était mort. Le sabre du père de Georges lui avait traversé le cœur. L'évanouissement de Robert dura près 1 heure. Quand il revint à lui, il était dans la salle du rez-de-chaussée où John et Paddy l'avaient transporté. Il n'y avait pas un instant à perdre pour quitter le lieu du combat car le jour ne devait pas tarder beaucoup à paraître. Les blessures de Robert n'étaient pas très dangereuses, mais le sang qu'il avait perdu l'avait considérablement affaibli et il eut beaucoup de peine à trouver la force de marcher. Appuyé sur le bras de ses deux amis, il parvint cependant à descendre jusqu'au boulevard extérieur. Un fiacre attardé passait et le cocher consentit d'aller conduire à la barrière de Passy, d'où ils gagnèrent à pied la maison de Sloth. La nuit était très avancée et ils ne rencontrèrent personne. Provisoirement, du moins, Robert se trouvait en sûreté. Son projet était de quitter la France avec John et Paddy, mais il était encore trop faible pour se mettre en voyage et il avait absolument besoin de plusieurs jours de repos et de soins. D'ailleurs, de graves scrupules lui étaient venus. Il ne doutait pas encore de la légitimité de l'acte terrible qu'il venait d'accomplir, mais il commençait à s'inquiéter de ses conséquences. Les papiers qu'il aurait pu mettre sur la trace de la vérité avaient été enlevés par John. Mais dans la précipitation du départ, il avait dû laisser tous les objets trop embarrassants pour être emportés. Le costume de plongeur, les armes étaient encore dans la chambre de combat, et le cadavre de Diego gisait sur le plancher à la place où il était tombé. La justice allait certainement croire un assassinat. La situation dans le monde du faux Pangorvo et le mystère qui entourait sa mort allaient surexciter la curiosité publique. On devait s'attendre à des recherches actives et à une intervention énergique de la police. Oh, il était peu probable qu'on retrouvât le fil qui rattachait à cette affaire Robert et ses amis. D'ailleurs, il ne craignait rien pour lui-même. Mais des innocents pouvaient être compromis, accusés, condamnés peut-être. Et cette pensée l'effrayait beaucoup plus que la nécessité de rendre compte de ses actes. Si ce malheur arrivait, la conscience de Robert ne lui permettait pas d'hésiter. Du reste, un sentiment intime le poussait à ne pas garder seul la responsabilité de cette mort. Le côté ténébreux de sa vengeance lui répugnait. Il se décida à envoyer John aux informations. Le vieux marin était tout à fait inconnu à Montmartre. Il pouvait donc, sans danger, se mêler au groupe attiré par l'événement et recueillir les propos qui circulaient. Robert le chargea en même temps de lire tous les journaux dans l'espoir qu'il le renseignerait sur la marche de l'instruction. Ce fut une inspiration. Le soir même, John Sloth revint fort triste et son maître bien de la peine à lui faire raconter ce qu'il avait appris. Les craintes de Robert n'étaient que trop fondées. On avait déjà arrêté plusieurs personnes et son chagrin d'avoir compromis des innocents fut très vif. Une douleur profonde lui était réservée, comme si Dieu voulut le punir d'avoir versé le sang, même pour la plus légitime vengeance. L'homme qu'on accusait du crime de Montmartre, celui dont l'honneur et la vie étaient mis en péril par les plus graves indices, c'était précisément le généreux inconnu que Robert avait voulu sauver naguère d'une attaque nocturne. Un fatal enchaînement de circonstances avait égaré la justice. La nuit où M. de Pontcorvo se décida à attaquer celui auquel le prisonnier du Cap Camara avait voué une éternelle reconnaissance, fut le point de départ de cette triste méprise. Cette nuit-là, Robert, sous le nom du valet de chambre Loiseau, avait assisté à la partie du cercle et pénétré les projets de Diego. Il était décidé à venir au secours de son bienfaiteur, mais Pour éviter d'être reconnu, il dut se borner à suivre de loin celui qu'il voulait protéger. Il espérait que le bruit de ses pas et la vue d'un passant inconnu effraieraient Diego et l'empêcheraient de tenter une attaque. Par malheur, ce plan ne put réussir. Le faux Pancorvo eut le temps de terrasser et de dépouiller sa victime, et Robert dut s'éloigner pour ne pas être reconnu et pour préparer le seul service qui lui fut permis de rendre encore à celui qu'il n'avait pas pu sauver. Il adressa à son bienfaiteur une somme égale à celle qui lui avait été volée, comptant ainsi s'acquitter sans trahir son incognito. Cet envoi eut de déplorables suites, et si Robert avait paru les prévoir, mieux eût valu 100 fois s'abstenir. La curiosité excitée par cette restitution anonyme poussa un homme des plus honorables à s'attacher aux traces du prétendu Loiseau, et la plus funeste coïncidence amena cet homme dans le jardin de la maison de Montmartre la nuit où se passait la scène tragique que je viens de raconter. Un indice trompeur avait complété la méprise et pouvait ramener une grave erreur judiciaire. Le bienfaiteur de Robert était arrêté sous l'affreuse accusation d'assassinat, et si la Providence n'intervenait pas pour éclairer le juge, un innocent allait périr. Robert n'eut pas à se reprocher, du moins, d'avoir hésité dans cette circonstance suprême. Son parti fut pris immédiatement. Il voulait avant tout, fût-ce au péril de sa propre vie, sauver celui qu'on accusait injustement. Mais s'il était décidé à se sacrifier lui-même, il ne pouvait se décider à faire partager son sort aux amis dévoués qu'il avait assistés. Il fallait donc trouver un moyen de faire partir John Sloth et Paddy Casson et attendre, pour se livrer à la justice, qu'ils fussent en sûreté de l'autre côté de la Manche. Robert ne perdit pas un instant. Il fit écrire par le fidèle John à un de ses vieux camarades de Whitstable, qui possédait une barque très connue pour sa marche supérieure. L'embarcation devait partir au reçu de la lettre et venir croiser devant Boulogne. Selon c'était sûr que ses instructions seraient ponctuellement exécutées, mais le voyage de la Tamise à Boulogne demandait quelques jours. Robert utilisa ce retard. L'arrestation de l'homme généreux qui souffrait à sa place était assez récente pour être ignorée de ses amis. Par divers moyens, Robert put faire en sorte que cette fâcheuse aventure ne fût pas ébruitée. Avant de délivrer l'innocent, il veilla sur sa réputation et réussit à la préserver. Le moment vint de se rendre à Boulogne. La barque de Whitstable courait débordée de vers la côte et les blessures de Robert étaient en voie de guérison. Son épaule, largement entamée par le sabre de Diego, le faisait encore beaucoup souffrir, mais à la rigueur, il pouvait supporter le voyage. Il partit avec ses deux amis, afin de veiller lui-même sur leur embarquement. On arriva à Boulogne sans accident, et le soir même, les fugitifs étaient réunis sur la plage du Portel, à une portée de fusil de la barque libératrice. Là, se passa une scène émouvante qui fut la dernière de ce long drame. John Sloth et Paddy voyaient avec désespoir Robert décidé à se livrer à la justice française. Il ne comprenait pas l'honorable scrupule et le généreux sentiment qui poussaient leur maître à accepter la responsabilité des actes sanglants de Montmartre, et il n'avait consenti à fuir qu'avec l'arrière-pensée de décider au dernier moment, Robert allait suivre en Angleterre. Quand arriva l'instant suprême des adieux, le pauvre John n'y tint plus. « Maître, s'écria-t-il en tombant aux genoux de Robert, au nom de Dieu, venez avec nous. N'abandonnez pas ainsi votre vieux serviteur. Vous savez bien qu'il préférerait 100 fois habiter avec vous les prisons des Français plutôt que de traîner sa vieillesse loin de son maître. » « C'est impossible, mon cher Sloth, disait Robert, en contenant à peine son émotion. Je ne peux pas laisser périr un innocent. Et la présence est nécessaire à Whitstable. Et puis la justice m'entendra. Comment veux-tu qu'elle me condamne? Dans quelques mois, nous nous reverrons. » John secouait la tête et fondait en larmes. L'émotion avait gagné Paddy, qui s'accrochait aussi en pleurant aux habits de Robert. En ce moment apparut en haut de la falaise un groupe d'hommes dont les intentions hostiles ne pouvaient être douteuses. On hélait les fugitifs avec des gestes menaçants et on s'apprêtait à descendre pour les cerner. Cette apparition rendit à Robert toute son énergie. « Pas un mot de plus, dit-il d'une voix ferme. Moi seul, je sais ce que je dois faire. Hésiter à m'obéir, c'est compromettre mon projet, c'est me perdre peut-être. Jetez-vous à la mer sans perdre une minute. Gagnez la barque et une fois à Whitstable, attendez mes instructions. Ta main, John, et adieu. » Le vieux marin se précipita en pleurant dans les bras de son maître. Et le pauvre Paddy, qui s'était tenu à l'écart, saisit timidement la main de Robert et la couvrit de larmes. Une minute après, les deux fidèles serviteurs nageaient de toutes leurs forces vers la barque qu'ils atteignirent promptement, et en moins d'une demi-heure, la voile blanche du sloop avait disparu dans la brume du soir. Robert restait seul sur la plage, et n'avait que quelques secondes pour trouver un moyen d'échapper à ceux qui le poursuivaient. La fuite était pour cet homme, qui voulait se livrer à la justice, une impérieuse nécessité du moment. En effet, s'il se laissait arrêter, il lui devenait impossible de persuader à ses juges qu'il n'avait pas voulu fuir. Et pour que l'innocent qu'il voulait délivrer bénéficia de la résolution généreuse de Robert, il fallait que cette résolution parût spontanée. Robert voulait venir dire à la justice « Oui, je voulais fuir et je n'ai pas fui parce que je voulais sauver un homme que l'on accusa justement. Si la mort de M. de Pontcorvo vous semble un crime, c'est moi seul qui suis coupable. « Me voici. Prenez-moi, jugez-moi, condamnez-moi s'il le faut, mais mettez en liberté l'innocent. » Il fallait donc fuir à tout prix. Mais la fuite était presque impossible. La marée avait monté rapidement pendant que Robert s'arrachait aux instants de ses deux amis. Et du côté du petit havre de Portel, le chemin était encore ouvert, mais par la précipitation venaient le commissaire de police et les agents. Suivre la grève dans cette direction, c'était se livrer à coup sûr. Et du côté de Boulogne, la côte formait une pointe qui s'avançait au large et déjà la mer se brisait en flocons d'écume sur les rochers du cap. Il était trop tard. La route était fermée. Que faire? Robert eut un moment de désespoir et il pensa à attendre stoïquement la mort sur cette plage sans issue. Cette terrible agonie de l'homme perdu dans les grèves, qui voit peu à peu triompher la mort et qui se noie en détail, Robert allait l'affronter sans pâlir. Il se laissa tomber sur un bloc de rocher que surplombait la falaise, et que les vagues atteignaient presque, et, la tête appuyée sur ses mains, il se prit à penser. C'était donc la dernière heure qui venait, et Robert l'attendait comme le voyageur fatigué attend l'heure du repos. Tous ceux qu'il avait aimés étaient morts, mais il venait de les venger. Sa tâche était accomplie, et rien ne le rattachait plus à la vie. Il pensait ainsi, oubliant qu'en ce moment même se décidait peut-être le sort d'un innocent qu'il pouvait sauver. Un hasard vint le rappeler à lui-même. Un petit caillou détaché de la falaise le frappa à la joue. Il leva la tête et vit que cette pierre avait roulé sous les pieds d'une chèvre qui grimpait en broutant les ajoncs suspendus au flanc abrupt du promontoire. La capricieuse bête remontait par un sentier à peine tracé, et, guidée par son instinct, elle côtoyait l'abîme avec une merveilleuse adresse et se rapprochait peu à peu du sommet. Dieu se manifestait encore une fois. Ce grain de sable qui brise le char des méchants, Dieu s'en servait pour montrer à Robert la voie du salut. Là où la chèvre avait passé, un homme pouvait passer, peut-être. Mourir brisé par une chute terrible ou mourir lentement sous les vagues, telle était l'alternative suprême, et Robert n'hésita pas un instant. Avant de tenter cette dernière chance, il examina la falaise avec cette puissance d'attention que donne le danger. Avec l'œil exercé d'un marin, il releva les moindres anfractuosités, les plus petites touffes d'herbe, il refit par la pensée l'ascension de la chèvre. Elle avait dû tourner par cette racine, sauter sur cette pierre saillante, s'accrocher des dents à ses ajoncs. Avant de commencer à grimper, Robert savait où poser chacun de ses pas. Son voyage aérien était arrêté dans sa tête comme un plan de bataille. Il se leva et marcha à l'ennemi. L'ennemi, c'était la falaise droite, hérissée, menaçante. Il l'aborda résolument. Sa blessure mal fermée le gênait beaucoup, surtout au début. Il lui fallait tantôt saisir de la main gauche un point d'appui douteux, tantôt affermir ses pieds sur un talus glissant, parfois mordre une tige de genêt sauvage et s'élever par un prodigieux effort des muscles. Peu à peu, cependant, l'action échauffa son bras droit, ses nerfs contractés se descendirent, et il put s'aider de ses deux mains. Il rampait, penché sur le précipice, ne donnant rien au hasard, ne faisant pas un mouvement sans être assuré du sol qui le portait. Quelquefois, il s'arrêtait pour reprendre haleine. Alors il regardait au-dessous de lui les vagues qui maintenant heurtaient avec fureur le pied de la falaise. Souvent, une lame plus forte lançait son écume jusqu'à lui comme pour ressaisir la proie qui lui échappait. Calme devant cette rage impuissante, il levait les yeux et voyait au-dessus de sa tête la chèvre salutaire. Elle montait insoucieusement, fuyant ce bruit insolite que Robert faisait à 20 pieds plus bas, et elle conduisait peu à peu vers la crête. La nuit était claire, et la toison blanche guidait le malheureux perdu entre le ciel et la mer, comme l'étoile polaire guide le pilote à travers les océans. Un dernier bond conduisit la chèvre sur le sol ferme. Elle s'arrêta un instant au bord de la falaise, comme pour dire adieu au fugitif qu'elle venait de sauver, et disparut en jetant au vent son cri mélancolique. Robert la suivait de près. Il atteignit à son tour le sommet du roc et tomba épuisé de fatigue et d'émotion. couché sur l'herbe fine et serrée d'un pâturage qui s'étendait à perte de vue sous les rayons de la lune, il remerciait Dieu et rappelait ses forces. La vigueur physique et l'énergie morale lui étaient plus nécessaires que jamais. Il était sauvé de la mer et du précipice, mais la tâche sacrée était encore bien loin d'être accomplie. Il fallait arriver à Paris. Il fallait y arriver seul et libre. À n'en pas douter, la police de Boulogne était prévenue et ses agents parcouraient la grève et la campagne. Robert se demandait quel nouveau miracle allait le sauver de leurs mains quand un bruit de roues et de grelots attira son attention. La route du Portel traversait le pâturage. Une voiture basse, un de ces petits paniers de louages qui servent aux excursions des étrangers, remontait au pas dans la direction de Boulogne. La lune éclairait assez pour montrer que le cocher était seul. Robert eut une inspiration. Il se leva, rajusta ses habits de son mieux, traversa les champs à grands pas et vint croiser la voiture en haut de la petite côte qu'elle montait. « Cocher, 100 sous pour me conduire à Boulogne !» dit-il en affectant l'accent anglais. C'était une trop bonne aubaine pour que le cocher refusât, et une minute après, Robert descendait, grand train, le chemin creux qui mène au port de la Liane. Une demi-heure encore, il allait se trouver à Boulogne, au milieu des agents qui le cherchaient. L'instant était décisif. « Votre cheval est bon, dit-il au conducteur, mais il n'y aurait pas longtemps de ce train-là. » « Pas longtemps, répondit l'homme, blessé dans son amour-propre de cocher. « Mais en 7 heures, il vous mènerait encore à Ville, et il a tout près de 20 lieues. »« Oh, je voudrais voir cette chose, » reprit Robert, du ton le plus insulaire qu'il put prendre. « Ça, c'est affaire à vous, bourgeois, » dit le loueur, à la fois vexé pour son cheval et alléché par l'espoir d'un gros gain. « Eh bien, 100 francs pour vous, si nous sommes à Ville demain matin avant 5 heures. » Le cocher le regardait sans trop d'étonnement, habitué qu'il était aux excentricités des nombreux Anglais qui habitent Boulogne. « Oui, reprit Robert, c'est un pari que je fais. » Et il mit 5 pièces d'or dans la main du cocher, qui les empocha joyeusement et, au bas de la côte, tourna à droite et se lança sur la route de Paris. Il n'avait pas menti. Son cheval, forte bête de cette race boulonnaise si recherchée jadis, faisait aisément ses 3 lieues et demie à l'heure. À minuit, on était à Montreuil et, un peu avant 5 heures, la voiture entrait dans le faubourg d'Abbeville. Là, le cocher déclara qu'il fallait descendre, attendu que, lui donna-t-on 1000 francs, son cheval ne marcherait pas 1 heure de plus. « J'achète un autre cheval, et vous me conduisez, » dit le faux anglais. « Et où vous conduisez, milord ?»« À Paris, je donne 300 francs à vous. » « Ah oui, toujours pour le pari. Oh. Et quand faut-il être à Paris pour gagner le pari ?»« Demain matin au jour. » L'offre était trop tentante pour être refusée. Le cocher se chargea de concert avec un maquignon de ses amis de procurer un cheval que Robert paya fort cher, mais qui se trouva être excellent. Le lendemain matin, à 6 heures, la voiture se présentait à la barrière Saint-Denis. Robert touchait au but. Déjà, il avait dit à son cocher de suivre le chemin de ronde dans la direction de Passy. Il voulait prendre dans l'appartement de Sloff ses dernières dispositions avant de se rendre au palais de justice. Les commis examinaient nonchalamment la voiture, mais deux agents de police, que le hasard de leur service de nuit avait amenés au poste de l'octroi, trouvèrent une allure suspecte à ce fiacre d'étrangers. L'un d'eux mit la main sur la bride du cheval, et l'autre s'avança pour prier le voyageur de descendre. Le moment était critique. Une seconde d'hésitation pouvait tout perdre. D'un brusque mouvement, Robert saisit les guides de sa main blessée, et de l'autre bras, il appliqua au cheval un coup de fouet si fort et si juste que l'animal partit à fond de train en renversant l'agent de police qui tenait la bride. Ce fut d'une course effrénée. Les commis et les agents se précipitaient en criant « Arrêtez !» Mais les passants étaient rares, et la vitesse du cheval était telle qu'elle eut bientôt distancé ceux qui le poursuivaient. Au détour d'une rue, Robert appliqua un dernier coup de fouet au cheval, qui cette fois prit le bord au nord, jeta les rênes au cocher, prit son élan au risque de se briser le crâne. La voiture emportée conduisit courut jusqu'au boulevard Saint-Denis, où le cheval épuisé s'abattit, et le malheureux cocher de Boulogne, ahuri de cette étrange aventure, fut arrêté et traîné devant le magistrat comme complice de l'assassin de Montmartre. Robert, cependant, s'était relevé de sa pénible chute volontaire. La rue où il était tombé était déserte, et il put se diriger à pied, sans que personne le remarquât, vers une station de fiacre. Il était temps. Ses forces étaient à bout. Sa blessure s'était rouverte. Une heure encore, peut-être, et il allait s'affaisser sous le poids de la fatigue et de la douleur avant d'avoir atteint son but. « Je mourrai, s'il le faut, au pied du juge. » se dit le malheureux. Mais je me serai du moins livré volontairement. Au palais de justice. Il eut encore la force de crier ces mots à un cocher qui regardait avec un étonnement mêlé de pitié cet homme pâle et empressé de se rendre au redoutable sanctuaire. L'œuvre était accomplie. Le respectable magistrat qui vit tomber à ses pieds l'homme dont je viens de raconter la vie n'a pas oublié, j'en suis sûr, ce cri parti du cœur. C'est moi, moi seul, qui ai tué monsieur de Pancorvo, râlait le malheureux qui croyait mourir. Était-ce donc l'aveu d'un coupable? Égaré par les apparences, la justice a pu le croire. Et en présence de l'obstination de cet homme à se taire, elle a dû poursuivre son œuvre. Mais Dieu, qui délie les serments et qui ouvre les cœurs, a permis que la vérité se manifestât. Il m'a choisi pour sauver un désespéré et pour éclairer vos consciences. Je vous ai dit la vie du malheureux, qu'une fatalité inouïe a jeté sur ce banc. Je lui avais promis de ne pas le défendre, et je ne l'ai pas défendu. Votre équité jugera. Ma tâche est accomplie, et la vôtre commence, dit le prêtre. Un long murmure accompagna les paroles du vénérable aumônier, qui vint s'asseoir, épuisé de fatigue et d'émotion, à côté de celui qu'il venait de sauver. Un frémissement sympathique courait dans l'assemblée et on pouvait lire sur le visage des jurés la promesse d'un acquittement unanime. Le président lui-même, saisi d'une pitié profonde, eut besoin de se rappeler la gravité de ses redoutables fonctions pour ne pas céder à l'entraînement général. Et ce fut d'une voix émue qu'il adressa la parole à l'accusé. Robert, lui dit-il. Et dans l'emploi de ce nom, il était facile de deviner une intention bienveillante. Vous avez entendu le récit du prêtre respecté qui a bien voulu accepter la pénible mission d'expliquer vos actes. Mon devoir m'oblige à vous demander si vous n'avez rien à ajouter à des déclarations que la cour accepte sans doute, mais qui doivent être confirmées par votre propre bouche. Depuis que l'abbé Guérin avait cessé de parler, Robert, le visage baigné de larmes, serrait dans ses deux mains la main de son généreux sauveur et semblait avoir oublié qu'il était devant ses juges. La voix du magistrat le rappela à lui-même. Il se leva, fit un effort pour diminuer son émotion et, s'adressant à la cour et au jury, il parla en ces termes. Oui, le noble protecteur que Dieu a suscité pour m'arracher à l'infamie vous a dit la vérité. Mais il ne l'a pas dite tout entière. Vous connaissez maintenant ma vie et mes douleurs. Vous savez comment j'ai été conduit à verser le sang, et quel que soit votre arrêt, je m'y soumettrai avec résignation. Il me reste à vous dire ce que mon sauveur a voulu taire. Il me reste à vous dire comment le saint prêtre que vous venez d'entendre a été mêlé aux terribles événements de ma vie tourmentée. Dans ces temps heureux de jeunesse et d'espérance, où je revenais à Whitstable, après avoir fini mes études à Paris, j'emmenais avec moi le plus cher de mes amis de France. Gabriel Guérin avait partagé pendant 6 mois mes joies et mes peines. Il m'avait consolé dans mes tristesses. Il m'avait défendu contre les attaques brutales et contre les railleries perfides. Puis il était un peu plus âgé que moi. Il était plus fort. Il était plus instruit et surtout, il était meilleur. Je l'aimais comme un frère et il me rendait l'affection que je lui portais. Il fut reçu à Whitstable comme un enfant de la maison. Et pendant 3 mois, il vécut de notre vie, de cette douce vie du cottage que les deux filles de Disney remplissaient alors de leur gaieté charmante. Gabriel aima Mary de toutes les forces de son âme. Je fus le confident de cette passion aussi pure que le cœur où elle était née, et je rêvais déjà d'unir ma sœur d'adoption, celui que j'appelais mon frère de France. Et la fatale passion de Mary pour Diego vint briser cet espoir et bouleverser ma vie. Je n'ai pas mission de vous raconter ici les douleurs de celui qui vient de vous initier aux terribles événements qui m'ont amené devant vous. Gabriel était un noble cœur. Il souffrit en silence, et après quelques années de lutte, il se jeta dans les bras de la religion, cette grande consolatrice des affligés. Et j'appris que, sous la robe du prêtre, il était allé chercher le martyr dans des contrées lointaines, et les catastrophes de ma vie m'avaient fait oublier l'ami de ma jeunesse lorsque la Providence l'amena à mon chevet. Je voulais mourir et j'acceptais l'infamie comme une expiation. Gabriel m'a ordonné de vivre, et il a voulu me justifier devant vous. Que la volonté de Dieu soit faite. Robert s'était assis et il avait repris son attitude morne et résignée. Il se fit un grand silence. Un sentiment de curiosité anxieuse s'emparait du public et des juges, et chacun se demandait quel dénouement allait clore cette audience unique, sans doute, dans les fastes judiciaires. Mais la loi est impassible, et l'immuable justice se maintient dans des sphères inaccessibles aux entraînements du cœur. Pour absoudre comme pour condamner, il lui faut des preuves. Le récit de l'aumônier venait de donner à cette cause une face toute nouvelle. Le ministère public demanda le renvoi de l'affaire à une autre session, et la cour fit droit à sa requête. La foule se dispersa, silencieuse et recueillie, de même qu'après la représentation d'un drame touchant les spectateurs émus s'éloignent, sans échanger leurs impressions. L'accusé rentra sous les voûtes sombres de la conciergerie. Il pouvait maintenant attendre sans impatience le jour qui lui apporterait la liberté. Le jour qui venait de finir lui avait rendu l'honneur. L'instruction nouvelle qui souffrit à la suite des révélations de l'abbé Guérin fut assez longue. Quel que fût le respect qu'inspirait l'aumônier, quelle que fût l'autorité de sa parole, la justice dut entreprendre une longue suite d'informations rétrospectives. Heureusement, les éclaircissements abondèrent. Il fut d'abord facile d'établir que M. de Pancorvo n'était autre que Diego Palmer, et l'existence de Morgane fut constatée de la façon la plus certaine. La merveilleuse mémoire de l'agent de police Joffra fut d'un grand secours pour établir le passé des deux scélérats oubliés depuis tant d'années. Il avait été mêlé jadis à de sanglants épisodes où Morgane jouait le principal rôle et les exploits de la fameuse bande de Shrob ou Arob vivaient encore dans les souvenirs. Les recherches remontèrent plus haut et s'étendirent sur tous les points du monde où s'était déroulé le long drame de la vie de Robert. L'assassinat de la Bastide Rouge en Provence, l'inexplicable suicide de Murray à Saint-Ouen, la condamnation du vagabond de la mer en 1846, chacun de ces faits avait laissé sa trace dans le répertoire toujours ouvert de la police. Le récit de l'aumônier se rapportait aux renseignements fournis dans ses formidables archives, comme à la fin d'un roman d'aventure, la moitié d'une pièce d'or s'adapte à l'autre moitié pour faire reconnaître le héros de l'histoire. Appelé par une lettre de l'abbé Guérin, John et Paddy étaient revenus se mettre à la disposition de la justice française. Les innocents n'ont pas besoin de concerter leur défense, et leur témoignage fut la meilleure justification de Robert. On les laissa libres et, dès que l'instruction fut terminée, on leur permit de revoir dans sa prison l'accusé du crime de Montmartre qui allait bientôt redevenir Robert Burt. Arriva enfin, après 3 mois de captivité, le jour solennel des assises. L'audience fut pour Robert un véritable triomphe. Son innocence, reconnue depuis longtemps, éclatait à chaque interrogatoire des rares témoins appelés devant la cour. Il fut acquitté après quelques minutes de délibération, et il est inutile d'ajouter que le verdict du jury fut rendu à l'unanimité. Épilogue. Des deux misérables complices de Diego, l'un se laissa mourir de faim dans sa prison avec le courage passif des Orientaux, l'autre s'entendit condamné pour vols à main armée à 20 ans de travaux forcés, sans laisser échapper ni un aveu ni une plainte. Libre et justifié, Robert avait hâte de quitter la France, mais avant de s'éloigner pour toujours, il aurait voulu serrer la main de l'homme que le hasard avait si étrangement mêlé aux événements de sa vie. cette satisfaction lui manqua. Après l'heureuse issue de sa terrible aventure, Henri de Servon avait entrepris un long voyage en Espagne et en Algérie. Il n'était pas encore de retour. Robert partit avec ses deux amis, car il pouvait maintenant nommer ainsi le pauvre Paddy, qui avait montré dans cette triste crise un dévouement à toute épreuve. La mission du vengeur de Georges et d'Hélène était accomplie, mais il avait encore un devoir à remplir. Il voulait réunir dans le même tombeau tous ceux qu'il avait aimés. Il s'en alla donc, cherchant ses morts dispersés sur les terres lointaines, et après 2 mois de pèlerinage funèbre, les restes de Disney et ceux de George reposaient dans le cimetière de Whitstable, à côté d'Hélène et de Mary. Il lui restait du sauvetage de l'Avenger une somme considérable, et cet or, qui avait causé tant de crimes, lui brûlait les mains. Il en fit 2 parts, qu'il donna aux pauvres de Paris et de Londres. Il vendit la maison de Montmartre, et il eut encore de quoi achever de vivre dans le cottage avec le fidèle Sloth. Paddy resta auprès d'eux pour les servir et leur fermer les yeux. « Le malheur m'a brisé avant l'âge », écrivait Robert à Servon, en s'éloignant de Paris pour toujours. « Et comme mon vieil ami John quittera ce monde, j'espère que je le suivrai de près. Vous qui m'avez donné la main dans la prison du Var, j'espère que vous me pardonnerez de vous avoir entraîné, malgré moi, sur la pente fatale où je voulais. Vivez heureux, et pensez quelquefois à celui que vous appeliez l'homme sans nom. » Le vicomte de Servon reçut cette lettre à son retour du voyage, plus de 6 mois après le départ de Robert Byrd. Elle lui rappela les singulières aventures auxquelles le hasard l'avait mêlé beaucoup plus qu'il ne l'aurait voulu. Il les avait déjà presque oubliés, et il ne gardait pas la moindre rancune au pauvre Robert, mais un point le préoccupait encore. Le moyen de rendre les 65 000 francs qu'il avait reçus jadis du prétendu Loiseau. Il les avait gardés autrefois, parce qu'il lui était impossible de faire autrement, mais il connaissait maintenant le nom de son prêteur, ce qui changeait la situation du tout au tout. Il écrivit donc une lettre qu'il chargea à l'adresse de M. Robert Byrd, Esquire à Whitstable. Il le remercia, avec force remerciement, une traite sur Robinson et Fleming, banquiers à Londres. 8 jours après, la traite lui revint dans un billet fort poli, signé par John Sloth, exécuteur testamentaire de M. Byrd, lequel avait succombé depuis 1 mois à une maladie de langueur. M. Sloth écrivait que son ami l'avait institué légataire universel et que par un codicille de son testament, il suppliait le vicomte Henri de Servon de garder à titre de souvenir la somme de 65 000 francs. Le vieux marin ajoutait que M. Robert Byrd avait été inhumé dans sa sépulture de famille et que tous les habitants du bourg l'avaient accompagné à sa dernière demeure. Servon était battu dans cette lutte de générosité et force lui était de garder l'argent. Il se promit de consacrer la somme à fonder une rente perpétuelle à distribuer chaque année entre les veuves et les orphelins des plongeurs de Whitstable. Il voulait aussi aller visiter le cottage où le pauvre Robert a vécu et le cimetière où il repose. En attendant, il alla revoir la maison de Montmartre. Le jardin n'avait pas cessé de ressembler à une forêt vierge, mais la maison avait perdu toute poésie. on y avait installé un photographe. L'écueil des sorels garde toujours l'or de l'Avenger. Il reste encore assez de millions pour tenter les chercheurs d'aventure. Et le vicomte y a rêvé parfois, après une veine contraire. Mais il craignait le mal de mer et il ne savait pas plonger. Il se contenta d'entreprendre le pèlerinage de Whitstable, où on mange d'ailleurs les meilleures huîtres d'Angleterre.